Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Pour ce 76e numéro, nous ne sommes pas partis très loin de notre cher studio. En effet, chers auditeurs et chères auditrices, les lieux du tournage du film dont nous allons vous parler aujourd'hui ne se situent qu'à quelques arrêts du tram T2. Vous l'aurez peut-être deviné, nous avons vu pour vous 12 jours de Raymond Depardon, documentaire filmé à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron. Après cette incursion inédite dans le milieu psychiatrique, nous nous retrouverons enfin pour parler des sorties ciné à venir. Mais tout de suite, je retrouve Maë et Sarah pour parler de 12 jours de Raymond Depardon. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Alors, 12 jours, c'est le délai au bout duquel une personne internée sans son consentement doit rencontrer un juge en vue de statuer sur la validité de la démarche. Depardon filme ses rencontres dans le dispositif qui est habituellement le sien, deux caméras et un champ contre champ. Un dialogue, en fait. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh bien, j'ai trouvé que la démarche était plutôt intéressante, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de filmer des asiles psychiatriques, mais j'ai trouvé que le film était quand même trop orienté, et que le côté documentaire pouvait se perdre un petit peu, parfois.
D'accord, et toi, Maë ?
Moi, j'ai pas été vraiment gênée par le fait que ce soit orienté, même si effectivement ça l'était un peu. J'ai surtout été marquée par la beauté des images, parce qu'il y a quand même des plans absolument magnifiques. Ça s'ouvre sur un travelling absolument génial. Et j'ai trouvé que ça, justement, au départ, on savait pas trop si on sait pas trop si on doit juger. Avec le juge de l'état mental de ces personnes ou se mettre de leur côté alors qu'elles sont enfermées de force. Et justement, petit à petit, j'ai trouvé que ce reportage nous montrait bien la complexité de la situation et finalement nous montrait que peut-être tout simplement on n'a pas les armes pour porter un jugement. Et du coup, en ce sens-là, je trouve que le documentaire est efficace.
Alors c'est vrai que c'est un documentaire qui prend peut-être parti dès le départ, puisqu'il se place quand même sous l'obédience de Michel Foucault. Enfin, dès le début, il y a un petit... En épigraphe, il y a une petite citation. Et donc, on sait quand même que Foucault était très critique vis-à-vis de l'institution psychiatrique. Bon, après, c'était quand même une autre époque. Et également que, dans Surveiller et punir, il critique la collusion qu'il peut y avoir entre la psychiatrie et la justice. Et tu parlais des travelling, Maë. Et alors là aussi, il se place sous l'obédience de quelqu'un d'important, c'est d'Alain René, qui enfin, on reconnaît quand même assez bien les travelling qu'il a pu faire lorsqu'il filmait Nuit et brouillard ou même l'hôpital au début de Hiroshima, mon amour. Je ne sais pas si ça vous a évoqué ça aussi.
Moi, pas vraiment, parce que je ne m'y connais pas tout à fait en cinéma. Mais ce que je trouvais d'assez intéressant, notamment avec le premier travelling, c'était son extrême lenteur qui rendait le spectateur presque fou. En fait, on se demande jusqu'où on va aller et finalement la caméra bute sur la porte. Enfin, elle ne heurte pas la porte, mais elle s'arrête là et c'est pas mal comme entrer dans un univers. En fait, ça montre à quel point c'est fermé.
Oui, à quel point il faut y aller étape par étape, etc. Et donc du coup, on assiste à beaucoup de dialogues de gens qui racontent leur histoire et il y a toujours la question qui va se poser de la place du réalisateur, donc comme vous l'avez dit toutes les deux, qui est un peu problématique peut-être. On se dit, enfin tu disais notamment Sarah.
Oui, bah on avait évoqué hier la scène du café avec la jeune fille qui le remercie pour un café. Bon, je ne spoil pas du tout. Et c'est vrai qu'il s'impose un peu comme un sauveur, en fait. Bon, je crois que, Maë, tu avais une opinion différente.
Disons que je trouve que c'est un peu trop... Enfin, pour moi, c'est un peu trop interprété que de dire cela. Je suis pas sûre qu'il se pose comme véritablement un sauveur, ou alors c'est juste que j'ai pas envie de le penser. Mais je trouve qu'on est... On est prompt à juger, à porter justement un jugement pendant tout le film. Et... Et peut-être que justement, il veut nous faire réfléchir et également nous faire réfléchir justement à ce que, qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie qu'elle le remercie parce qu'il lui a offert un café et qu'elle, elle en a jamais parce qu'elle est en prison dans cet hôpital psychiatrique? Ou alors simplement qu'elle le remercie pour ce café avec un langage qui montre bien qu'elle n'est pas, elle est pas très claire dans sa tête, je trouve. Mais disons que c'est des discours qui sont embrouillés souvent. Mmh. Et du coup, il nous fait simplement penser à la manière dont eux vivent cet internement. Ou alors, et aussi peut-être nous montrer, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils soient maltraités, je trouve, dans cet asile. Et du coup, peut-être nous montrer la différence entre la réalité et les préjugés qu'on pourrait avoir. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup permis de réfléchir justement sur un asile. Et pas forcément en négatif.
Enfin, toujours est-il que ce moment où elle s'approche face caméra de l'équipe technique pour les remercier de lui avoir payé un café, enfin, pose question, en tout cas, il est problématique.
Moi, j'ai vu autre chose, en fait, au moment où j'ai vu ça, je me suis dit qu'il lui avait demandé de... Ils ont eu une discussion avant, au moment où il filmait, lui, il est en plan fixe, et c'est très intéressant, tout le moment où elle s'approche face caméra, du coup, je me suis dit, il lui a demandé de le faire. Et elle avait pris l'initiative de lui parler, de parler à la caméra, alors que lui n'y avait peut-être pas du tout pensé. Mmh. Et peut-être qu'il l'a gardée aussi pour rappeler que cette personne avait conscience de la caméra. Et de la même manière où il a glissé le moment où, pendant un entretien, l'un des interrogés lui dit « Zoomez, monsieur, zoomez sur, bah, en l'occurrence, des égratignures qu'il a sur les bras. »
Oui, à cause des liens qu'il...
Enfin, peut-être voilà. Pour rappeler que c'est un reportage justement, oui, et que oui, les oui. gens voient les caméras au moment où ils sont filmés.
Et du coup, forcément, dans ce genre de dispositif, il y a la place le rapport de force qui s'instaure entre les personnages quand même, parce qu'il y a quand même la présence d'un juge. À un moment, il y a un des personnages, ben, celui justement des égratignures, qui appelle la juge votre honneur un petit peu par mimétisme peut-être de ce qu'il a pu voir ou entendre, et elle lui dit non, ce ne sera pas la peine ici et tout ça. Et du coup, il y a toute cette place du juge qui est quand même, il me semble, beaucoup interrogée dans ce film.
Oui, bah déjà c'était très intéressant qu'on ait plusieurs juges, donc plusieurs images de juges. Il y en avait certains qui pouvaient apparaître un peu plus humains peut-être que d'autres, je trouve. Mmh. Et selon les situations aussi, ils pouvaient changer un peu. Mmh. Par exemple, il y a cette scène glaçante où l'une des juges...
Attention spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir.
Ah oui, où l'une des juges révèle une anecdote, non du coup je ne spoilerai pas, révèle une anecdote un peu terrible et renverse la...
Voilà, qui change toute la perspective sur l'entretien qui a eu lieu juste avant, et on sentait pendant tout l'entretien effectivement qu'elle était peut-être pas dans la même attitude vis-à-vis de ce...
Oui, mais elle n'avait pas le ton aussi doux qu'elle avait pour parler à d'autres fous.
Oui, enfin... On ne sait jamais vraiment, c'est ça. Au bout d'un moment, ça finit par nous... Parce qu'il y a aussi, voilà, outre la place du juge, outre la place du filmeur, il y a aussi la place du spectateur qui est sans cesse en train de nous interroger, j'ai l'impression. Il y a des moments où on revient à se remettre en cause nous-mêmes, on se demande jusqu'à quel point ils sont fous, jusqu'à quel point c'est pas une manipulation. Enfin, il y a un moment où... de flottement, je trouve.
C'est un film qui nous interroge vraiment sur des questions d'éthique, et du coup, c'est très compliqué, par exemple... Moi, je pense beaucoup, enfin, j'ai beaucoup repensé à ce moment où il y a une femme qui est interrogée, qui est dépressive et qui dit qu'elle veut partir et se suicider, pour se suicider. Et il y a vraiment ce moment de flottement où on se dit, mais effectivement, c'est ce qu'elle veut. Et on l'oblige, la société l'oblige à se faire soigner. Mais elle dit clairement, je ne veux pas être soignée. Moi, ça fait 37 ans que je souffre, je veux en finir. Et c'est là où on se demande vraiment... c'est vraiment une question d'éthique, quoi. Est-ce que on n'a pas le droit de disposer sa propre vie? Est-ce qu'elle n'aurait pas le droit finalement de mourir si c'est ce qu'elle souhaite? Mais non, la société lui interdit, quitte à la contrainte à rester dans un asile psychiatrique.
Oui, c'est ça. Il y a plein de problèmes de vocabulaire d'éthique vraiment qui se posent à plusieurs reprises. Enfin, notamment au moment de l'employé de chez Orange où il y a tout un débat qui s'instaure sur la remarque du médecin où il écrit qu'elle a une interprétation de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques comme étant du harcèlement, et l'avocat se permet de rappeler qu'elle travaille chez Orange et que ce qu'on sait de chez Orange, c'est quand même que voilà, il y a eu une vague de suicides après la privatisation, etc. Et du coup, il y a plein de moments comme ça où même parfois certains qui ont l'air totalement apathiques ou qui vont demander mais pourquoi les gens sont malades, pourquoi les gens sont fous, et d'un coup il va y avoir une foule de questions qui vont se faire jour dans une remarque même d'une personne qui a l'air totalement de ne pas disposer de ses moyens.
Oui, oui. Et en plus, plus, il y avait quelque chose d'assez intéressant aussi dans ce film, c'était les différents discours. Bah, Maë, tu as parlé tout à l'heure des propos un peu embrouillés, un peu confus des patients. Et on pouvait remarquer souvent qu'ils étaient un peu systématisés avec des... Et ils utilisaient des termes qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense notamment à ce jeune Sénégalais, non, Angolais, qui avait voulu tuer une fille avec 13 coups de couteau. Et qui disait tout le temps, oui, maintenant j'ai compris ce qu'est la loi, j'ai compris que je dois respecter la loi, qu'après je pourrais m'acheter ce que je voudrais quand je travaillerai, etc. Et c'était un peu comme si on lui avait... comme si on l'avait endoctriné, en fait.
Bah oui, il y a clairement une impression qui se dégage, une espèce de normation par cette institution-là. Enfin, oui, enfin, je reviens à cet exemple de celle de chez Orange qui dit « Oui, je dois travailler sur moi, etc. » Alors qu'à la base, c'est quand même son manager qui l'a emmené là. Et... Alors certes, oui, il faut qu'elle guérisse pour elle-même, pour éviter de se faire du mal, etc. Mais est-ce que la voie de la guérison qu'on lui propose, est-ce que c'est une voie qui est comme ça, une espèce de loi nécessaire qu'il faut qu'elle suive. Enfin, c'est vrai que c'est la question qu'on peut toujours se poser. Est-ce que la psychiatrie telle qu'on la connaît, est-ce que c'est la seule voie? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que...
Après, je crois que cette personne-là était d'accord pour rester plus longtemps et pour reconnaître qu'elle en avait besoin.
Oui, mais est-ce que c'est pas le fruit de...
Oui, est-ce qu'on ne l'a pas persuadé aussi, en fait, avec ces soins-là? Est-ce que son médecin ne l'aurait pas persuadé aussi?
Il y a l'autorité quand même symbolique de l'institution du médecin. Enfin, il y a toujours cette espèce de frottement de tension. On se dit, oui, elle a conscience qu'elle n'est pas bien et qu'il faut qu'elle trouve une solution pour elle-même. Mais est-ce que cette solution qu'on lui propose, c'est l'unique solution?
Peut-être que ce n'est pas l'unique solution, mais j'ai tendance quand même à penser que les personnes là, qu'on a vues dans le film et qui sont internées, sont des personnes qui sont soit dangereuses pour la société et les autres, soit dangereuses pour elles-mêmes et de manière vraiment directe. C'est-à-dire qu'il y a un risque réel pour que cette personne-là se suicide. En l'occurrence, on voit bien que c'est pas ce qu'elle veut vraiment au fond, c'est juste qu'elle est très mal. Et du coup, aussi, il y a bien un moment où il faut faire quelque chose. Alors peut-être que ce qu'on fait pour les soigner, c'est pas exactement la bonne manière, mais peut-être qu'on ne sait tout simplement pas quoi faire de plus. Et c'est toujours mieux que de les laisser complètement démunis.
Oui, non, mais c'est sûr, mais il y en a qui demandent parfois une espèce de compromis avec l'institution. Par exemple, le fait d'être soumis à des soins, etc., mais d'avoir quand même leur liberté. Enfin, il y a toujours des moments de... D'un coup, on se dit, oui, après tout, quelle légitimité à les retenir là de force. Même si, oui, je suis d'accord qu'il y a un moment où il faut peut-être les protéger d'eux-mêmes ou protéger la société.
Et protéger les autres, parce que je trouve que, notamment les personnages qui revendiquent le plus l'envie de sortir, ce sont ceux aussi qui ont un casier judiciaire assez chargé, qui ont été internés après des coups de couteau, après des tentatives de meurtre, et on se dit, ah oui, il a peut-être envie de sortir, mais nous, on n'a peut-être pas très envie qu'il sorte avant qu'il soit soigné. Et c'est aussi le but, le rôle de la justice, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est pas de punir les individus, mais c'est de faire en sorte qu'ils se fassent pas de mal ni à eux ni aux autres.
Mais après, ce qui est surprenant, c'est qu'ils vivent cet internement comme une punition d'une certaine manière. Ils se sentent quand même, ce qui ressort dans le discours, c'est qu'ils se sentent prisonniers. Et le fait d'amener un juge dans cet univers là les juges ont souvent cette phrase qui revient où ils disent je suis pas médecin, moi je suis là pour vous, pour vérifier. Enfin, on comprend pas non plus très bien. Eux-mêmes, on a l'impression qu'ils ont du mal à expliquer leur propre rôle, enfin, ce qu'ils font ici.
C'est vrai qu'eux sont perdus en fait, dans un jargon médical, j'ai l'impression. Ils relisent ce qu'ils ont sous le nez. Et c'est là justement où je pense qu'on a peut-être une interprétation un peu erronée de ce qu'on entend comme le délire psychotique. Ça veut peut-être dire quelque chose de très nuancé en médecine, mais nous, du coup, on l'interprète tout de suite de manière très forte. Et c'est vrai que les juges, du coup, on se demande s'ils sont vraiment capables de juger de ça, puisque effectivement, ils sont pas médecins, donc les médecins pourraient leur écrire après tout n'importe quoi. Et eux,
oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de collusion entre la justice et la médecine. Enfin, la justice, qu'est-ce qu'elle vient juger là, à cet endroit-là? À la limite, qu'elle soit là pour juger que le patient n'a pas été victime d'un abus de faiblesse ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment pour déterminer s'il prolonge l'internement ou pas, et ce qui est pas innocent, c'est-à-dire il prolonge une forme de privation de liberté puisque c'est quand même sans le consentement de ces personnes. Enfin, il y a une espèce de...
C'est vérifié qu'il n'y ait pas eu, je pense, vraiment de cas assez affreux où il y aurait une corruption de médecins ou une personne saine se retrouverait enfermée contre son gré là. Mais je pense que, par contre, je finis juste par contre, je trouve que... ça s'entend bien que ces personnes ont un problème, justement. Au début, des fois, elles peuvent paraître très saines et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là, effectivement? Puis, au fur et à mesure de leur discours, ça s'embrouille et on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, je pense que c'est ça qu'essayent de voir les juges. C'est vérifier qu'ils sentent bien que ce que déclarent les médecins, se vérifie.
Non, mais je dis pas qu'il y a abus de faiblesse ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on se demande ce qu'ils viennent vérifier, parce qu'eux, ils viennent entériner la poursuite de l'internement. Enfin, c'est pas vérifier s'il y a abus de faiblesse, enfin, c'est pas ce qu'ils vont dire. Eux, ils disent on vient entériner la décision des médecins ou pas. Ils rendent une décision, d'ailleurs, ils la font signer comme, aux patients comme quoi ils l'ont reçue. Enfin, il y a vrai, c'est très étrange cette espèce d'entre-deux justice médecine qui.
Mais après, peut-être que c'est un défaut du film, je ne sais pas trop, mais j'aurais bien aimé voir la délibération des juges. À un moment, par exemple, il y a un juge qui avoue qu'il ne sait pas trop quoi prendre comme décision, donc il va réfléchir. Et j'aurais bien aimé qu'on voit ce moment-là où il s'interroge, où il se donne à lui-même des arguments, des choses comme ça. Tandis que là, on avait l'impression que les patients étaient pratiquement jugés d'emblée, en fait, et on ne voyait pas quelle était la démarche des juges pour prendre leurs décisions. Et c'était dommage. Je trouve.
Mais je pense que c'est là qu'intervient tout simplement les années d'études qu'il faut pour être juge, où finalement, en fait, il y a des réflexions derrière toutes ces lois, et je pense que eux, justement, ils ont tout le bagage de leurs études et qu'ils réfléchissent en termes de lois, en termes de ce qu'ils savent, en termes de milliers d'études de cas qu'ils ont pu étudier en cours à l'université. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez des étudiants en droit, mais c'est assez. C'est, en fait, chaque décision est pas en fait, véritablement celle de l'individu seul. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'en fait, on lui a dit comment penser, on lui a dit sur quel détail s'attacher pour rendre un jugement. Donc, c'est pas non plus le Saint-Esprit, et ils n'ont pas exactement la même capacité, je pense, de jugement que nous. Je pense qu'on leur a appris.
Mais à quel moment la loi, le code civil, le code pénal, etc., intervient dans... qu'est-ce que ça a à faire avec un jugement psychopathologique, avec un jugement de médecin ? Le médecin, il n'est pas là pour juger en fonction de la loi. Enfin, les patients, même ceux qui ont tué ou quoi, ils ont purgé une forme de peine... de prison, là ils en sont au point où on veut les réinsérer et du coup les soigner, etc. Pourquoi le juge, la loi, etc. va se retrouver dans l'univers soignant et corroborer ou non une décision de médecine, enfin,
sans voilà. Mauvais jeu de mots, je dirais qu'ils sont là comme garde-fous en fait.
Eh bien, peut-être que sur ce jeu de mots, on peut se demander si on recommande ce film ou pas.
Je pense que c'est toujours intéressant d'aller le voir. Après, je ne suis... Je crois que je n'ai pas particulièrement aimé, mais il faut encore que je délibère avec moi-même, voilà, je suis un peu juge. Mais sinon, c'est vrai que ça soulève beaucoup, beaucoup de questions, ce film, et bon, il a beaucoup d'avantages aussi, il faut le reconnaître.
Et moi, je le recommande vivement, j'ai beaucoup aimé.
Oui, moi aussi, rien que pour justement les questionnements qu'il suscite, moi je pense que c'est le genre de film qui vaut le coup d'être vu. Et tout de suite, on se retrouve pour quelques conseils sortis pour la semaine à venir. Alors d'abord, L'usine de rien de Pedro Pino, qui est, de manière très surprenante, une comédie musicale qui parle d'un mouvement social. Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la production, ils décident d'occuper les lieux. À leur grande surprise, la direction se volatilise, laissant au collectif toute la place pour imaginer de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise est devenue le modèle de gouvernement dominant. Ensuite, vous pouvez aller voir aussi Mariana de Marcela Saïd. Alors Mariana est une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne qui s'efforce d'échapper au rôle que son père puis son mari ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son professeur d'équitation de 60 ans, ex-colonel, suspecté d'exactions pendant la dictature. Vous pouvez aussi aller voir Closet Monster, donc le monstre du placard de Stephen Dunn, je ne sais pas comment on dit. Oscar est témoin d'un meurtre à caractère homophobe dans le cimetière de la petite bourgade où il vit. Les années passent et il grandit dans le souvenir de cette expérience traumatisante et un sentiment d'abandon généré par le départ de sa mère et une relation tendue avec son père. Grâce à son imagination, Oscar parvient à avancer peu à peu sur le chemin de la résilience. Il déniche un premier emploi dans une quincaillerie où il fait la connaissance du flamboyant Wilder. Les deux adolescents se lient d'amitié, mais les sentiments d'Oscar pour Wilder deviennent plus qu'amicaux. Et bien sûr, va sortir mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, Star Wars 8, le dernier Jedi. Pour les événements lyonnais, demain, donc le 14 décembre, de 18h30 à 21h30, le ciné-club de la Fourmi est consacré à Baby Driver d'Edgar Wright. le samedi 16 décembre de 10h30 à 12h30 à l'Aquarium Ciné-Café, vous pourrez assister à une table ronde ayant pour thème diffuser le documentaire d'auteur La Nouvelle Donne. Et enfin, le même jour de 22h30 à 1h du matin, le cinéma Lumière Bellecour projette en séance de minuit un film de Noël cultissime, j'ai nommé Gremlins de Joe Dante. Alors voilà, d'étoiles plein les yeux 76, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Sarah et Maë qui étaient aussi à la régie. À bientôt dans les salles obscures.